11h sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs. Vous écoutez La Méridienne, une nouvelle émission en partenariat avec l'INSERM Grand Ouest. Aujourd'hui, en studio avec moi, j'ai le plaisir d'avoir deux invités. Bonjour Marie-Laure Winter.
Bonjour Mélissa.
Bonjour Frédéric Lemoynier.
Bonjour Mélissa.
Alors, est-ce que pour nos auditeurs, avant que j'écorche le nom de votre unité, est-ce que l'un de vous veut nous rappeler de quelle unité INSERM vous venez ?
Alors, l'unité INSERM dans laquelle nous travaillons s'intitule Imagerie et cerveau, avec un bel acronyme qui est iBrain. Donc, elle est donc localisée, bien sûr, à l'université de Tours, à la fois sur les sites de la faculté de médecine, mais également de la faculté des sciences.
Et alors, on a prêché, je crois même qu'on appelle ça l'unité U1253. Voilà, pour ceux qui aiment les chiffres, et je dis ça parce que, chers auditeurs, vous retrouverez en podcast sur notre site des émissions avec d'autres membres non moins éminents de cette unité iBrain. Alors, chers invités, peut-être voulez-vous commencer par expliquer à nos auditeurs étudiants, on l'espère, comment on devient chercheur.
Alors, donc moi j'ai un parcours un petit peu atypique. Hein. Je travaille en fait à l'hôpital et également dans l'unité de recherche de Frédéric, hein, dans l'équipe neurogénomique et physiopathologie neuronale. Et en fait, j'exerce plusieurs missions. J'exerce à la fois des missions d'enseignement, de recherche, mais également j'ai une activité hospitalière en fait au laboratoire de génétique du CHU de Tours. Et pour en arriver là, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique parce que j'ai suivi une formation scientifique et non pas un parcours médical ou pharmacie. Hein. Souvent sur ces postes-là, on voit souvent des médecins ou des pharmaciens. Donc moi, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles en physique-chimie. Ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieurs à Grenoble en physique. Et déjà, à l'époque, j'étais très intéressée par les sciences du vivant. Donc, je me suis spécialisée dans une filière pour les biotechnologies. Et donc, c'est comme ça que peu à peu, je suis revenue à la biologie. Et j'ai fait une thèse de science en oncogénétique, donc dans le domaine des cancers génétiques, pour essayer en fait d'étudier les gènes de prédisposition au cancer du sein. Et donc là, je suis revenue à la génétique et suite à ça, donc j'ai vraiment travaillé qu'en génétique, d'abord à Bordeaux et puis ensuite à Tours où j'ai obtenu ce poste hospitalo-universitaire en 2019.
Alors comment on fait pour obtenir un poste comme celui-là? Parce que voilà, on imagine qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc comment on...
Alors pour obtenir un poste comme ça, déjà il faut avoir une thèse de science, donc ce que j'ai obtenu moi dans les années 2004. Et surtout, donc il faut faire de la recherche un peu plus fondamentale. Il faut aussi avoir ce qu'on appelle des publications dans des revues à comité de lecture. Voilà. Et comme c'est un poste avec plusieurs missions, il faut avoir aussi des antécédents, avoir travaillé dans le diagnostic hospitalier, avoir fait des enseignements, dispensé des enseignements et puis avoir fait de la recherche.
Est-ce que ces multifonctions, c'est quelque chose de rare pour des chercheurs comme vous, ou est-ce que c'est
finalement assez rare? Enfin, à Tours, on a quand même pas mal de chercheurs hospitalo-universitaires avec des parcours scientifiques, mais dans les autres villes, j'en avais vu beaucoup moins.
Merci Marie-Laure Winter.
Alors, je vous en prie.
Et vous, Frédéric Lemoynier?
Alors moi, je suis chercheur à l'INSERM. Et on pourrait, comment dire, me qualifier d'un produit local de la Touraine. Donc moi, je suis originaire de la Touraine. J'ai fait toute ma formation universitaire donc à Tours. Alors en fait, initialement, je voulais pas forcément devenir chercheur. Hein. C'était pas quelque chose que je voulais faire quand j'étais petit. Quand j'étais petit, moi, je voulais soit être musicien ou soit être médecin. Donc, et en fait, j'ai eu le déclic probablement en terminale, donc avec un professeur de SVT qui m'a mis les lumières dans les yeux sur notamment la neurotransmission, la fonction des synapses, voilà. Et donc, et c'est un peu ce que je fais aujourd'hui maintenant en tant que chercheur, où je travaille sur la génétique et également sur la neurobiologie. Et donc en fait, moi j'ai eu un tournant dans dans ma petite vie à 18 ans. C'était soit me lancer dans un parcours de musicien pro, ou soit de faire des études de médecine. Donc je suis allé sur des études de médecine. Je n'ai pas eu le concours de médecine. À l'époque, c'était comme toujours extrêmement compétitif et sélectif. Et donc ensuite, j'ai fait un cursus classique, donc LMD en sciences de la vie. Thèse en génétique humaine, donc à l'université de Tours. Et puis ensuite, donc j'ai passé 2 ans et demi en Angleterre, à l'université de Cambridge, où j'ai fait ce qu'on appelle un post-doctorat, donc qui permet en fait d'acquérir des nouvelles compétences et surtout de travailler en tant que chercheur dans un environnement qui est complètement différent, tant sur le plan bien sûr de la langue, il faut être bilingue, donc là 2 ans et demi pour pratiquer l'anglais, et puis la façon de travailler, l'acquisition de nouvelles technologie. Et puis ensuite en 2007, donc j'ai rejoint l'INSERM par les concours de chercheurs, et donc j'ai rejoint l'unité imagerie cerveau à Tours, donc qui à l'époque était l'unité U619. Donc pareil, hein, les chiffres évoluent, voilà, ça ne baisse pas en chiffres, hein. Et puis donc depuis, donc j'ai développé un groupe de recherche, et maintenant je suis responsable d'une des équipes de recherche au sein de l'unité.
Ça veut dire quoi, développer un groupe de recherche? C'est-à-dire qu'un jour, on a une bonne idée sur un groupe de recherche, on propose et, disons, les financeurs disposent. Comment ça marche?
En fait, j'ai pu développer un groupe de recherche grâce à un projet européen. Donc, c'était un financement sur 5 ans dans lequel, alors qui impliquait 16 équipes internationales, principalement européennes. Et donc, moi, j'avais été responsable de ce qu'on appelle un work package. En fait, c'est un des grands axes de travail. Et ça m'avait permis d'obtenir donc un financement assez conséquent sur 5 ans. Et du coup, j'ai pu recruter notamment donc des doctorants et post-doctorants, ce qui m'a permis de bâtir justement ce groupe de recherche et d'acquérir, de pouvoir animer un groupe. Et de travailler sur des objectifs précis et atteindre certains buts.
Mais alors là, dans ce que vous expliquez, on voit qu'il y a encore d'autres compétences des chercheurs, en plus de toutes celles que nous présentait Marie-Laure Winter, c'est-à-dire qu'il faut aussi être manager.
Ah oui, ça, tout à fait. Un chercheur, bien sûr, doit faire de la recherche scientifique, hein, c'est la base du métier. Mais il faut pas non plus négliger, et ça prend de plus en plus de part dans notre travail au quotidien, l'aspect bien sûr encadrement d'étudiants. Alors au laboratoire, par exemple, on encadre des étudiants donc de L3, de M1, de Master 2, également des doctorants bien sûr. On accueille aussi régulièrement des lycéens, des stagiaires de collège, donc pour leur faire découvrir comment fonctionne un labo de recherche. On n'est pas du tout dans un système de type entreprise, avec des postes très bien hiérarchisés, donc ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant pour leur perception d'un environnement de travail. Et puis donc un chercheur aussi à un moment donné va être responsable de projets de financement, et donc doit fournir aussi bien sûr des résultats et doit rapporter ses résultats, donc aussi bien en termes de publication mais également que de compte rendu vis-à-vis de ses financeurs. Et puis il y a l'aspect bien sûr administration de la recherche. On est en recherche active de financement, la recherche en tout cas en biologie, ça coûte très cher, et donc on est constamment à être en train de rédiger des appels à financement. Donc voilà, donc c'est un travail à la fois de découverte scientifique, de travail scientifique à la paillasse, mais on a aussi toute une activité d'administration, de recherche de financement et d'encadrement.
Alors je renvoie à l'excellent podcast qu'on peut trouver sur Binge Audio, qui s'appelle « Qu'avons-nous fait de la recherche ?». C'est en 4 épisodes, c'est vraiment très intéressant. Et entre autres, dans ce podcast, il y a une des personnes interviewées qui dit que cette part d'administratif devient un peu obèse dans les travaux des chercheurs. Alors qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre?
La part obèse, je pense que c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Il faut quand même... c'est un peu comme dans le sport, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir, un entraînement pour assurer une bonne digestion de cette activité. Donc, bien évidemment, on est de plus en plus confronté à cette part d'administration, de recherche de financement. Le monde de la recherche, c'est extrêmement compétitif. La part du financement global disponible pour la recherche, bien sûr, n'augmente pas. Donc, on a des contraintes. Il y a la compétition qui est de plus en plus importante, mais j'ai envie de dire ça fait aussi un peu partie du jeu. Mais on est toujours à la recherche de financement pour mener à bien nos projets, et en particulier dans nos domaines au sein de l'équipe, hein, la biologie, la génétique, les neurosciences. Donc ce sont des domaines où, je dirais, le coût de la recherche donc est extrêmement élevé.
Ouais, je suis complètement d'accord avec Frédéric, et c'est vrai que je trouve ça difficile, surtout quand on démarre une activité de recherche, quand on n'a pas eu de financement ou de premiers résultats, c'est compliqué d'obtenir des financements, parce que les financements s'appuient toujours sur des résultats préliminaires. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Donc c'est vrai que voilà, il faut ce démarrage en fait pour pouvoir amorcer les choses et pour pouvoir développer encore plus les projets de recherche.
Alors comment on fait si on n'a pas déjà disons quelque chose en main pour aller chercher des sous? On insiste? Comment on fait?
Alors oui, il faut insister, hein. Moi j'ai soumis plusieurs demandes de financement, et puis on peut être un petit peu soutenu par la structure dans laquelle on travaille, où il y a toujours, on va dire, un financement des fonds pour le commun qui nous permettent aussi d'amorcer ce début de recherche. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment persévérer, et je dirais que pour être chercheur, il faut une certaine ténacité pour justement s'accrocher, même en cas de retour négatif, recommencer et rechercher d'autres sources de financement via d'autres organismes.
Ah oui, tout à fait. Il y a un mot qui est important, c'est la passion. Le métier de chercheur, ça doit être une passion. Il y a des bons côtés, des côtés un peu moins, je dirais, intéressants, si je puis dire. Après, la question de l'amorçage aussi, ça c'est important, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut amorcer des projets de recherche. Ensuite, il faut être tenace, comme le disait Marie-Laure, pour pouvoir à un moment donné passer le seuil au-delà duquel on obtient un financement. Et en général, ensuite, il y a une bonne dynamique. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a obtenu un financement, ça va permettre après de pouvoir obtenir des financements complémentaires. Un point important aussi, la recherche ne se fait pas de manière isolée.
C'est ce que j'allais dire.
Donc il y a aussi l'aspect interactif, collaboratif, et la mise en réseau de nos travaux, de nos activités en tant que chercheurs, aussi bien au niveau local, national qu'international, c'est aussi fondamental. Voilà, l'exemple du projet européen que je citais, ça a permis de tisser une vraie collaboration qui dure encore, et avec vraiment des vrais partenariats, et même d'ailleurs des partenariats privilégiés avec aussi une meilleure connaissance des gens. Donc les gens sont plus des collaborateurs mais des vrais partenaires, et pour ainsi dire des fois des gens avec qui on aime vraiment travailler. Donc on va dire des amis, mais c'est des amis dans le cadre de la recherche, oui. Voilà.
Alors quel effet, parce qu'on peut pas ne pas en parler, cette fameuse Covid-19, à votre avis, quel effet ça va avoir sur ces équilibres qui existent dans la recherche de financement?
En termes de, par exemple, en termes de priorité de financement sur cette thématique en particulier?
Pas que sur cette thématique-là. Est-ce que ça va peut-être changer des choses? Est-ce que l'idée de travailler sur le modèle d'appel à projet, est-ce que ça va être mis en question? Est-ce qu'on peut espérer qu'il y a des choses qui...
Moi, je pense que ça va pas changer grand-chose à ce niveau-là. Surtout que justement, grâce au Covid-19, on a pu être encore plus proche, malgré la distance, avec tout ce qui a été mis en place, avec les visios notamment, ce qu'on faisait déjà avec des collègues à l'international. Mais je pense pas. Après, c'est sûr qu'il va y avoir des financements qui vont être plus orientés pour la recherche pour la Covid-19, mais ça changera pas les interactions qu'on a déjà avec nos collègues européens ou à l'international. Ou
non.
En France.
Ouais, tout à fait. Après, effectivement, il y a eu une adaptation dans la façon de travailler en termes de connexion avec les collaborateurs. Bien sûr, on a privilégié de plus en plus les visios, mais ça a été, je pense, aussi un bon outil qui a été bien utilisé. Alors attention à ne pas trop utiliser les visios, parce que des fois, ça peut, je dirais, créer de la confusion. Mais en tout cas, ça a permis vraiment d'avoir des contacts en virtuel, mais en situation réelle, hein. Alors ça se fait aussi dans les congrès scientifiques. Les congrès scientifiques, pendant cette période sanitaire, donc se sont faits aussi beaucoup en mode virtuel. Ça a permis quand même de faire des échanges, voilà. Mais sinon, concernant la recherche, bien sûr, on voit que la Covid-19 donc a aussi créé une opportunité d'avoir des appels à projets vraiment extrêmement réactifs. Alors nous, dans notre thématique, on n'était pas franchement, si on travaillait par exemple en virologie sur les aspects immunitaires, là effectivement, je pense qu'il y a eu vraiment d'excellentes opportunités pour acquérir des financements, mais aussi pour faire de la recherche vraiment en mode, j'allais dire, rapide, pour essayer de répondre à des questions vraiment d'actualité, pour trouver soit des vaccins ou soit des stratégies thérapeutiques, quoi.
Alors vous dites, Frédéric Lemonnier, trop de visio, donc tu la visio, vous dites ça crée de la confusion, c'est-à-dire ?
Non, disons que pour le vivre au quotidien, on est, comment dire, les visioconférences, ça permet d'avoir des contacts, je dirais, quasiment en temps réel, mais on est souvent confronté à avoir plusieurs visios dans une même journée. Donc ça veut dire qu'avant, on prenait le temps de préparer les réunions, il y avait le présentiel, donc vous savez qu'en réunion présentielle, il y a toujours des échanges avant, pendant ou après. Là, la visio, vraiment, c'est très structuré. Ça pourrait s'apparenter un peu à ce que l'on vit aussi quand on reçoit 100 emails par jour. Vous voyez. Donc, à un moment donné, je pense que le cerveau a aussi n'a pas d'autre choix que de faire un certain tri. Donc, la visio, c'est un excellent outil, mais à utiliser aussi de bonne manière.
C'est vrai que pour les congrès, c'est vraiment dommageable de les faire en visio parce que justement, on va sur des congrès scientifiques pour se faire un réseau, pour rencontrer les personnes vraiment de visu. Donc là, ça casse quelque chose dans la dynamique, surtout pour les congrès. Après, pour les réunions, ça facilite les choses. Quand on a un séminaire à Paris, voilà, ça nous évite un déplacement. Donc ça peut avoir un aspect très pratique. Mais quand même, effectivement, pour certains aspects, on sera vraiment heureux de retrouver le présentiel.
Je pense que ça doit faire écho aux étudiants qui nous écoutent.
Exactement.
Là. Notamment les cours en visio.
Pour avoir donné des cours en visio, oui, on sent que c'est difficile. C'est
vraiment... Effectivement, l'expérience de faire les cours sur Teams, où on délivre notre cours face à des écrans, des écrans noirs, voilà. Il manque l'échange, même visuel, hein, vraiment, avec les étudiants qui sont en amphi. On n'est pas dans les mêmes conditions de transmission du message quand on fait une visio que quand on est en mode réel.
Complètement.
Oui, c'est vrai que cette dalle-là d'écran noir, il y a un côté morbide aussi.
C'est un côté curieux, voilà.
Oui, puis c'est difficile de fixer son attention. Si les personnes ont tous branché leur caméra, on a quand même pas mal de vignettes qui s'affichent. Donc c'est plus fatigant, ouais, effectivement. C'est plus de difficultés dans les visios par rapport à ça.
Et l'idée, c'était quand même de ne pas laisser tomber aussi les étudiants, je pense, à la base. Donc c'était aussi de leur permettre de rester accrochés. Face à cette crise sanitaire, il fallait trouver aussi des moyens alternatifs pour permettre aussi de transmettre les cours.
Voilà, donc chers étudiants, si vous nous écoutez, sachez que les enseignants n'ont pas spécialement envie non plus de poursuivre les cours en visio, et tant mieux. Alors avant de se pencher plus avant sur vos activités au sein de cette unité INSERM, je vous propose de faire une pause musicale. Et alors nous allons écouter, attention pour mon excellent accent, nous allons écouter Deria Yildirim et groupe Fisek. Allons-y, on est sur Radio Campus Tour, c'est la Méridienne. Radio Campus Tour 99.5 FM. Vous écoutez toujours La Méridienne avec moi en studio, Marie-Laure Winter et Frédéric Lemonnier. Alors, chers invités, vous êtes ici pour représenter l'unité INSERM U1253 ou alors neurogénomique et physiopathologie neuronale. Oh là, je suis sûre que parmi les auditeurs, il y en a d'autres qui ne comprennent rien au nom de cette unité. Alors, bien sûr, je pense que vous allez pouvoir nous expliquer que signifient ces termes.
Alors, bon, c'est pas si compliqué que ça. En fait, ce sont des termes scientifiques pour expliquer deux choses. Dans l'équipe, on travaille à caractériser des facteurs génétiques, entre guillemets des gènes, qui sont impliqués dans des troubles du développement du cerveau, et en particulier donc les déficiences intellectuelles, et puis une maladie neurodégénérative qui s'appelle la sclérose latérale amyotrophique. Donc, dans le travail de l'équipe, donc on s'attache à recruter des patients. Donc ça, c'est en lien avec les généticiens et les neurologues du CHU de Tours, qui sont également membres de l'équipe. Et puis ensuite, donc à partir des patients, on fait une exploration génétique, donc pour essayer de trouver des variants génétiques, donc des mutations qui seraient associées donc à la pathologie. Et ensuite, on essaie de comprendre l'impact de ces mutations, soit sur le développement du cerveau, soit sur les phénomènes qui aboutissent à la mort neuronale, en particulier dans la sclérose latérale amyotrophique. Donc le terme neurogénomique, en fait, c'est, on va dire, pour résumer, c'est travailler sur la génétique appliquée au cerveau. Et puis la physiopathologie neuronale, c'est comprendre les mécanismes qui aboutissent au dérèglement ou dysfonctionnement de la cellule neuronale.
Peut-être que tous nos auditeurs n'ont pas révisé leur cours de SVT. Est-ce que vous voulez nous expliquer comment ça fonctionne un neurone? Est-ce qu'on entend parler de neurones, de neurotransmetteurs, de synapses? Alors comment ça marche, toutes ces choses?
Alors ça, je pense que normalement, les étudiants sont censés a priori avoir au moins des concepts basiques. C'est quelque chose qu'on travaille en terminale, je crois. Mais juste un petit rappel, donc le cerveau, bien sûr, au cours de, je dirais, de la vie, hein, donc le cerveau se développe, acquiert bien sûr un nombre important de neurones et puis aussi de synapses qui sont en fait les sites qui permettent la communication entre les neurones et la transmission de l'information. Et puis ensuite, donc grâce à ces systèmes hein, de connexion neuronale, donc ça permet au cerveau de fonctionner, d'acquérir donc des capacités de mémorisation, d'apprentissage, d'adaptation, etc. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait en gros depuis que l'on est né hein, et qu'on pratique en particulier quand on est étudiant. Hein, quand vous apprenez des cours, bah, c'est vous faites fonctionner vos réseaux neuronaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie donc justement de comprendre en situation pathologique, dans les déficiences intellectuelles et dans la SLA.
Ah mais pour être plus précis, là, si on dit alors quand deux neurones arrivent l'un à côté de l'autre pour transmettre une information, il se passe quoi entre ces deux neurones? C'est comme des prises électriques? Qu'est-ce qui se passe?
Il y a des molécules chimiques aussi qui sont relarguées. En fait, les neurones ont des prolongements, hein, des dendrites ou l'axone qui permettent de transmettre les signaux. Et ça passe par des molécules chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs sont transmis via l'architecture du neurone, via des synapses, hein, c'est on peut dire une protubérance au niveau de ces prolongements. Et donc, effectivement, c'est aussi basé sur un signal électrique. Toute cette transmission se fait aussi grâce à ça. Enfin, Frédéric, tu compléteras si.
Pour être précis, Mélissa, il y a deux types de synapses. Il y a les synapses électriques, et en particulier sont les synapses justement qui peuvent être associées à certains types voilà de fonctions au niveau de l'organisme. Mais principalement, nous, ce que l'on étudie, ce sont les synapses chimiques, donc avec des neurotransmetteurs. Donc, ce que disait Marie-Laure. Alors, nous, on s'intéresse en particulier dans les déficiences intellectuelles aux synapses excitatrices, donc notamment les synapses qui permettent de libérer le glutamate. Donc, qui est un des neurotransmetteurs majeurs au niveau du cerveau. Il y a d'autres types de synapses. Hein. On va pas. Après, si vous voulez qu'on fasse un cours,
vous reviendrez. C'est
voilà, c'est ça, exactement. Mais effectivement, on a constaté que, alors, à côté de la neurotransmission, il y a également l'architecture des synapses qui est elle organisée par environ 1500 protéines et on sait que les interactions entre ces protéines, ça crée donc une structure, une forme d'échafaudage qui permet notamment d'assurer la transmission de l'information du neurone présynaptique vers le neurone postsynaptique. D'accord. Donc le neurone qui va transmettre l'information au neurone qui va recevoir l'information. Et donc on sait que les gènes qui codent pour ces protéines sont mutés, notamment dans les troubles du neurodéveloppement.
Bon, je triche un peu, hein, autant le dire aux auditeurs, j'ai des schémas sous les yeux que je pourrais mettre en lien, en podcast, si vous le souhaitez. Eh bien, merci. Alors, pour qu'on puisse ensuite s'intéresser de plus près au glutamate, peut-être qu'on peut expliquer à nos auditeurs c'est quoi la déficience intellectuelle.
Alors, la déficience intellectuelle, c'est en fait la définition, c'est une limitation des capacités cognitives, hein, du fonctionnement intellectuel, mais aussi de ce qu'on appelle le comportement adaptatif, c'est-à-dire comment l'homme va s'adapter aux contraintes et aux exigences de l'environnement. Et surtout, c'est un trouble qui apparaît au cours du développement. Donc ça repose vraiment sur ces trois critères, le fonctionnement intellectuel qui est limité, les capacités d'adaptation également, et puis un âge d'apparition de ces troubles avant l'âge adulte, donc souvent avant 18 ans. Voilà, en gros, comment on peut définir la déficience intellectuelle.
Alors, ces déficiences intellectuelles, je crois qu'il y en a deux principales. Enfin, il y en a plein, mais il y en a peut-être.
Alors, il y a des tas de syndromes, hein, qui entraînent une déficience intellectuelle. On dit souvent que la déficience intellectuelle, elle peut être soit isolée, donc on a une déficience intellectuelle seule, soit on parle de déficience intellectuelle syndromique parce que justement la déficience intellectuelle, elle est associée à d'autres troubles, hein, d'autres manifestations cliniques. Donc ça peut être des troubles neuropsychiatriques, hein, comme l'autisme, des troubles du comportement. Ça peut aussi être l'épilepsie ou des malformations congénitales. Hein, ça peut être des malformations cardiaques, squelettiques, de différents organes en fait. Donc il y a des tas de présentations dans la déficience intellectuelle. C'est ça qui complique énormément le diagnostic parce que c'est très hétérogène au niveau clinique. Et également au niveau, on le verra, au niveau des causes, c'est aussi très très hétérogène, la déficience intellectuelle.
Si je peux rajouter juste un élément pour compléter la description de Marie-Laure. Et alors effectivement, il faut juste rappeler que les déficiences intellectuelles, ça représente entre 2 et 3% hein, des individus de la population générale. On appelle ça la prévalence. Donc vous rapportez ça à l'échelle de la population française, donc c'est quand même un problème majeur de santé publique, que effectivement il y a des formes dites non syndromiques, donc une déficience intellectuelle isolée sans aucun autre signe distinctif, et des formes dites syndromiques. Un exemple parmi les plus connus, hein, c'est la trisomie 21, donc c'est une forme génétique de déficience intellectuelle. Il y a plein d'autres syndromes sur lesquels on travaille au laboratoire également. Et puis, l'autre aspect également, c'est cette hétérogénéité effectivement génétique. Donc, je sais pas, on l'abordera peut-être plus tard, mais à l'heure actuelle, on estime qu'il y a au moins 1000 à 1200 gènes candidats qui sont impliqués dans les déficiences intellectuelles. Donc ça rajoute de la complexité, voilà, à la problématique de recherche dans ce type de trouble neurodéveloppemental.
Sachant qu'en plus, la déficience intellectuelle, elle peut avoir différentes formes. Elle peut être sévère, elle peut être modérée, elle peut être légère. Et que le rendement diagnostique dans ces différents cas ne va pas du tout être le même. Il y aura beaucoup plus de causes génétiques sur des déficiences intellectuelles sévères que sur des déficiences intellectuelles légères ou modérées. Et tout ça est un petit peu basé sur... Enfin, reposé avant. Maintenant, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Mais sur la notion de QI, de quotient intellectuel, c'est-à-dire le ratio entre l'âge mental du patient qui est évalué par des tests sur son âge réel, qui est un rapport qui est multiplié par 100. Et en moyenne, on va dire que le QI de la population générale, en moyenne, est autour de 100. Donc on va définir une déficience intellectuelle avec justement un seuil de QI inférieur à 70. Et en fonction de ce chiffre, on va avoir des déficiences intellectuelles plus ou moins sévères. Donc ça, c'était, on va dire, dans le passé, c'était surtout basé sur ce critère-là. Et maintenant, il faut aussi évaluer tout ce dont je vous parlais par rapport au comportement adaptatif. Quelles sont, en fait, les capacités de l'individu, son autonomie, dans différents secteurs, le secteur social, les apprentissages, les loisirs, le travail, etc. Donc c'est plus global que la mesure de ce paramètre psychométrique, le QI.
Alors, je reviens sur les 1200 gènes dont vous parliez. Alors, peut-être pour qu'on se figure précisément de quoi il est question. Ça représente quoi à l'échelle, disons, d'un humain? C'est combien Est-ce que 1200 gènes, c'est beaucoup, c'est un petit peu, c'est voilà. Et aussi quelle différence, que je suis pas sûre que ce soit toujours clair la différence pour nos auditeurs entre ADN, gènes et chromosomes.
Vous voulez vraiment que je fasse un cours, hein, Mélissa, peut... c'est ça. Ok.
Non, pas forcément.
Non, mais c'est important. Effectivement, il faut bien être précis sur ces termes. Alors, on estime à l'heure actuelle. Alors, c'est une donnée qui est relativement précise, que le génome humain donc contient 25 000 gènes. Voilà, entre 20 et 25 000 gènes. Donc si vous faites le ratio avec les 1200 gènes déjà, je dirais, impliqués dans les déficiences intellectuelles, donc vous voyez qu'on se retrouve grosso modo à environ 5%, hein, voilà, de ce qu'on appelle le génome codant, hein, donc qui est déjà impliqué dans des anomalies du développement cérébral. A priori, on n'a pas encore identifié tous les gènes qui causent des troubles neurodéveloppementaux. On en trouve encore, nous, dans l'équipe, on en a décrit un nouveau, d'ailleurs, pas plus tard que le mois dernier, qu'on a rapporté dans une publication. Donc là, la recherche continue, et d'ailleurs, sur cette thématique-là, il y a énormément de travail. Je pense qu'on en a encore pour quelques dizaines d'années pour comprendre toute la l'architecture génétique et la physiopathologie des troubles du neurodéveloppement. Les termes, donc effectivement, ADN, ARN, protéines, donc juste pour rappeler, donc l'ADN, c'est le support de l'hérédité, hein. Donc c'est ce qui contient donc les bases essentielles donc à ce qui nous fait, hein, ce qui nous établit en tant qu'être humain. Donc c'est le support de l'hérédité, c'est l'ADN, c'est la molécule qui contient donc tous les gènes. Ensuite, ces gènes sont transcrits en ARN, donc l'ARN, c'est le produit d'expression du gène, et ensuite l'ARN est dit traduit en protéine, donc la protéine. Donc vous voyez qu'un gène ensuite donc est transcrit en ARN, et l'ARN est ensuite traduit en protéine, et c'est ce qui permet de définir une cellule, un organe ou un organisme en entier.
Et les gènes sont vraiment des fragments d'ADN, hein, de notre génome qui ont une taille qu'on mesure justement avec ces molécules qui forment l'ADN, qui sont les nucléotides. Il y en a 4 ATCG. C'est un petit peu comme si on lisait des phrases, mais avec seulement 4 lettres, quand on veut décoder, lire l'ADN, hein, c'est-à-dire séquencer l'ADN. Et effectivement, le génome, c'est 3,2 milliards de bases, hein, donc c'est énorme. Et les gènes, c'est seulement 1 à 2%, hein, c'est très très petit la proportion de ces fragments d'ADN qui vont être responsables de la synthèse de protéines qui vont jouer des rôles importants au niveau de l'organisme.
Et alors, quand on est chercheur à l'INSERM et qu'on travaille sur les gènes, comment on arrive à les récupérer, ces gènes ?
Alors, c'est un peu une fouille archéologique, hein. On cherche vraiment l'aiguille dans la botte de foin, parce que 3,2 milliards de lettres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et nous, on cherche une variation sur une ou quelques lettres. On cherche parfois aussi des variations plus grandes à l'échelle des chromosomes, hein, parce que les déficiences intellectuelles, elles peuvent avoir des causes différentes, des causes chromosomiques. Donc là, c'est tout le chromosome qui peut être, des chromosomes qui peuvent être en plus ou en moins, ou alors on a des anomalies vraiment à l'échelle de ces lettres, hein, des mutations ponctuelles, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, pour faire ça, on va dire qu'on a des nouvelles technologies qui nous aident énormément. C'est les technologies qu'on appelle de séquençage haut débit. Donc c'est du séquençage massif. C'est quoi ? C'est-à-dire que au lieu de lire la séquence de l'ADN fragment par fragment et patient par patient, on va avoir des outils qui vont nous permettre de lire tous ces fragments en même temps, donc plein de gènes en même temps. Et au lieu d'analyser un seul patient, le génome d'un patient, on va pouvoir analyser le génome d'une dizaine de patients pour les 20 000 gènes du génome. Donc ça nous aide, mais effectivement, on sait qu'on a des variations entre tous les individus sont différents, hein. On a des millions de variations qui nous permettent de différencier chaque individu. Donc là, il faut trouver quelle est la variation causale qui va être responsable de la pathologie. Et là, il y a tout un travail, donc à l'issue de ce séquençage du génome, il y a tout un travail bioinformatique pour aller repérer les variations et identifier quelles sont les variations qui sont associées à la pathologie, c'est-à-dire des variations très rares qu'on ne retrouve pas dans la population générale. Et puis des variations qui vont être prédites par des outils bioinformatiques, prédites comme étant pathogènes parce qu'elles vont modifier la protéine, elles vont modifier sa conformation tridimensionnelle, elles vont modifier le pH ou tout un tas de propriétés de la protéine. Donc ou alors elles vont carrément entraîner l'absence de protéines qui est la protéine qui est synthétisée par le gène qui est muté. Donc on peut, par exemple, sur une analyse haut débit, on va avoir sur toute l'analyse de tous les gènes, hein, pas de tout le génome, mais de tous les gènes seulement, des 20 000 gènes, on va avoir à peu près 70 000 variations. Et sur ces 70 000 variations, il va falloir identifier une, voire deux variations qui sont impliquées dans la pathologie du patient.
Alors ça, les 70 000, hein, on ne s'amuse pas à les vérifier hein, l'une après l'autre, vous imaginez, bien évidemment. En fait, ce qui a été un réel développement, une explosion, je dirais, en termes de compétences technologiques là, sur les 20 dernières années, c'est notamment effectivement le séquençage de l'ADN. Le séquençage, hein, c'est la caractérisation donc de toute la lecture, hein, de vraiment la traduction de l'ADN, donc les fameuses 3 milliards de bases mises bout à bout. Et encore, à l'heure actuelle, il y a certaines régions qui ne sont pas encore bien décrites. Et ça, donc ce séquençage, il a été publié au début des années 2000. Et donc, cette base de données, maintenant, elle est disponible hein, sur Internet. Vous pouvez, si vous voulez, vous intéresser à voir, par exemple, tiens, à quoi ressemble telle région au sein du chromosome 15. Voilà. Si ça vous dit. Donc il y a des sites qui sont disponibles sur Internet, accessibles au public. Et ensuite, donc grâce à cette base de données, donc nous ensuite par nos analyses de séquençage sur l'ADN des patients, on les confronte avec cette base de données d'ADN de référence. Alors ce ne sont pas des ADN contrôle, c'est un ADN de référence, voilà, qui est considéré comme étant un ADN qui a priori ne renfermerait pas. J'utilise bien le conditionnel, hein, ne renfermerait pas de variants, pathogènes. On compare donc ces données-là et ensuite, à un moment donné, on va pouvoir peut-être détecter effectivement quelques variants qui, a priori, sont considérés comme anormaux. Et après, donc, on commence à creuser justement le côté recherche. Voilà, c'est un peu comme ça, des fois, on va passer pas mal de temps sur une variation d'une seule lettre de l'ADN qui concerne un gène pour lequel on sait qu'il a une expression au niveau du développement du cerveau. Et ensuite, par nos analyses, je dirais, fonctionnelles, on peut mettre en évidence donc un impact sur le développement du neurone.
Alors ça ressemble à quoi une analyse fonctionnelle ?
Très bonne question. Une analyse fonctionnelle, alors nous, ce qu'on utilise au laboratoire, on utilise plusieurs approches. Première approche, on va regarder l'impact de la variation génétique que l'on teste sur l'expression de l'ARN, donc du transcrit du gène. Donc ça, c'est possible quand, par exemple, on dispose de cellules du patient, soit des cellules, par exemple, sanguines, soit éventuellement des fibroblastes donc issus de biopsies de peau. Donc ça, c'est bien sûr en lien avec les services cliniques. Et ensuite, on peut également, en parallèle, modéliser la variation génétique sur des cultures de neurones dans lesquelles on fait exprimer cette variation génétique. Donc on fait exprimer la forme génétique donc, qui contient la mutation dans des cultures de neurones que l'on fait pousser dans des boîtes. Et après, on regarde ce que ça va générer sur le développement du neurone donc dans ces boîtes de culture.
C'est-à-dire que vous reproduisez, disons, une erreur qui pourrait exister chez un patient ?
C'est
exprès,
ça, c'est,
exactement.
On fait une modélisation, voilà, on modélise, tout à fait.
On mime, et si on sait que la variation va éteindre la protéine, on peut aussi inactiver le gène in vitro dans les cellules. Donc là, ici, dans le modèle qu'on utilise, ce sont des cellules neuronales d'embryons de souris. Donc on a, voilà, soit on surexprime le variant, enfin la mutation, soit au contraire, on inactive le gène et on va regarder après ce qui se passe au niveau cellulaire. Est-ce qu'il y a des défauts dans la morphogénèse neuronale, hein, la synaptogénèse, etc. On va regarder différents paramètres sur les neurones.
Alors, avant de vous proposer d'expliquer plus en détail un projet sur lequel vous travaillez précisément en ce moment, peut-être expliquer à nos auditeurs finalement à quoi ça sert de travailler autour des déficiences intellectuelles. Je pense qu'aucun de nous n'en doute.
D'un point de vue fondamental, on va mieux comprendre en fait les mécanismes physiopathologiques qui sont impliqués dans la déficience intellectuelle, les voies de signalisation qui peuvent être dysfonctionnelles. Et puis pour le patient, savoir l'étiologie, enfin la cause de sa déficience intellectuelle, c'est vraiment important, ne serait-ce que pour sa prise en charge médicale, hein, pour le suivi. C'est vrai qu'actuellement, il y a peu de thérapie, hein, pour la déficience intellectuelle, à part peut-être pour quelques maladies métaboliques. Donc c'est vrai que on ne va pas soigner, mais on va pouvoir adapter la prise en charge du patient. Le patient va comprendre les raisons de sa pathologie. Et puis surtout, ce qui est important, c'est le conseil génétique qu'on va pouvoir apporter aux familles. Si un couple a déjà eu un enfant qui est atteint de déficience intellectuelle, le fait de savoir quelle est la mutation qui est en cause et comment elle a été transmise va permettre d'évaluer le risque de récurrence si le couple a un autre désir de grossesse, et puis d'apporter un conseil génétique aussi aux apparentés dans la famille pour savoir s'ils ont un risque ou pas d'être porteurs de la variation. Sachant qu'il y a majoritairement des variations dans la déficience intellectuelle qu'on appelle des mutations de novo, ça veut dire que les mutations, ce sont des accidents qui sont arrivés après la fécondation, donc des mutations qui ne sont pas héritées, qui ne sont pas présentes chez les parents. On a souvent tendance à confondre génétique et hérédité, mais génétique, ça ne veut pas forcément dire mutation transmise, héréditaire. Et c'est dans la majorité des cas, on a des mutations qui sont absentes chez les deux parents. Donc là, on peut rassurer. À part à quelques exceptions, des choses un petit peu plus exotiques, hein, mais en gros, si la mutation est de novo, on peut rassurer la famille. Après, si c'est des mutations qui sont transmises par chacun des parents, il va falloir justement faire une étude au niveau de la famille pour voir quelles sont les personnes à risque dans la famille. Donc là, il y a vraiment un intérêt pour le diagnostic et pour le patient.
Donc, ce que Marie-Laure, là, vous avez écrit, c'est aussi une des caractéristiques majeures de notre façon de travailler au sein de l'équipe, c'est ce qu'on appelle la recherche translationnelle. Alors, c'est un terme qui est un peu utilisé, généralisé en ce moment, mais dans notre équipe, donc, notre recherche, elle est basée vraiment sur le recrutement des patients, hein, aussi bien sur les déficiences intellectuelles que sur la SLA. Et ensuite, donc, on essaie de comprendre, justement, de trouver, donc, les causes. Alors, tout n'est pas génétique, hein, dans ces pathologies-là, mais quand ces patients viennent en service de génétique, c'est qu'a priori, il y a peut-être donc des arguments en faveur de l'implication d'altération de gènes candidats. Et donc ensuite, nous, au laboratoire de recherche, c'est justement de comprendre, pour ces familles qui ont accepté, hein, qui ont fait la démarche de participer à des programmes de recherche, de leur fournir, bien sûr, quand on peut, des arguments qui permettent de fournir, je dirais, des éléments qui seraient en faveur donc de l'implication d'une mutation génétique qui expliquerait la maladie chez leur enfant ou au sein de leur famille. Et ça, c'est vraiment une démarche, en tout cas moi, en tant que chercheur INSERM, c'est comme ça que je fonctionne depuis probablement mon parcours en tant qu'étudiant, qui part vraiment du recrutement des patients, on fait de la recherche et ensuite, bien sûr, le retour, c'est au bénéfice aussi des patients et des familles qui ont accepté de participer à ces approches.
C'est aussi ce que je trouve très intéressant, hein, dans nos métiers, c'est vraiment d'aller de la clinique, de la pathologie vers la recherche, qui peut être une recherche plus fondamentale, et de revenir, qui est vraiment un bénéfice après pour les patients. Ça, je trouve que ça a vraiment un grand intérêt dans notre travail.
Alors, c'est aussi peut-être de dire à des familles, qui ne sont pas responsables.
Aussi, également.
Mais peut-être que ça peut être important pour eux de l'entendre, de dire « c'est pas de votre faute ».
Complètement.
Exactement. Et justement, dans ces cas-là, vraiment, la génétique et ce que disait Marie-Laure, les mutations, notamment de novo, hein, dans les déficiences intellectuelles, il y a une part significative de mutations dites de novo. Et ça permet vraiment de donner des éléments qui permettent vraiment aux parents ou à la famille de comprendre, voilà, l'impact, enfin, comment cet événement est arrivé et a créé un impact majeur, voilà, dans le cadre familial. Donc, mais même plus largement dans le cas des troubles du spectre de l'autisme, voilà, on est aussi dans des cas de figure similaires.
Je vous propose de faire une pause musicale avant de se lancer sur les synapses glutamatergiques des acteurs majeurs dans l'EDI. Excellent article à retrouver. On trouve le lien sur le site INSERM. On le mettra évidemment en lien de ce podcast. Et alors, on va faire une nouvelle pause musicale et je crois, Frédéric Lemonnier, vous avez choisi quelque chose, vous vouliez nous proposer une musique, c'est quoi ?
Alors, c'est un titre de Ben Harper. Alors, Ben Harper, c'est vraiment, à titre personnel, c'est un de mes musiciens, un chanteur préféré. Je l'avais d'ailleurs vu en concert à Tours, il y a peut-être 10-12 ans, je crois, il était passé au Grand Hall. Et donc là, c'est un titre donc qui s'appelle Fight for Your Mind, avec des musiciens qui sont juste exceptionnels. Voilà, donc je voulais vous faire partager ce morceau que j'adore particulièrement.
Bon, alors écoutons ça dans La Méridienne sur Radio Campus Tours. Harper sur Radio Campus Tours, vous écoutez toujours la Méridienne. Alors je suis en studio avec mes deux invités, Frédéric Lomonier et Marie-Laure Winter. Ça y est, je me suis pas trompée, ouf, parce que ce serait vraiment le comique de répétition. Alors chers invités, je pense qu'à présent vous allez pouvoir nous en dire plus sur les synapses glutamatergiques.
Alors, je vais vous évoquer un exemple d'un gène sur lequel on a travaillé depuis quelques années au laboratoire et pour lequel on a pu décrire déjà premièrement son impact dans les troubles du neurodéveloppement, et deuxièmement la fonction de ce gène et de la protéine codée par ce gène au niveau des synapses glutamatergiques. Donc ce gène, il s'appelle PTCHD1, et en fait tout est parti de l'étude clinique et génétique de patients présentant donc une déficience intellectuelle, un trouble autistique, et ces patients donc avaient une anomalie génétique au niveau du gène PTCHD1. Et donc on a rapporté donc ceci dans une publication, je crois que c'était en 2015, donc qui rassemblait plusieurs patients. C'est une collaboration internationale, hein, j'insiste toujours, hein, la recherche se fait aussi avec des collaborateurs, et surtout avec des collaborateurs. Et donc suite à ça, en fait, on s'était aperçu que le rôle de ce gène et de la protéine PTCHD1 au niveau du développement du cerveau n'était absolument pas décrit. Et donc on s'est engagé donc dans des travaux de recherche, alors grâce bien sûr à des financements qu'on a obtenus et qui ont permis donc et ça c'était en 2017, de faire donc une publication qui a permis de décrire le rôle important de PTCHD1, notamment dans l'architecture des synapses glutamatergiques, donc excitatrices, et du rôle de cette protéine, et notamment de l'impact de mutation de cette protéine sur justement le fonctionnement des synapses glutamatergiques. Et donc on avait travaillé notamment sur un modèle de souris qui n'exprimait plus ce gène, de manière similaire à ce qui se passait chez les patients. Donc on a modélisé en fait la déficience de ce gène donc chez la souris. Et donc ensuite, donc grâce à ça, donc on a pu montrer qu'effectivement que cette protéine donc qui a une fonction de récepteur, mais pour lequel on ne connaît pas la molécule qui se fixe sur ce récepteur, donc on désigne ce genre de récepteur comme un récepteur orphelin. On a pu montrer donc effectivement que des mutations de ce gène donc sont associées à des troubles du neurodéveloppement. Et puis donc cette année, on a également sorti donc une autre publication, pareil sur une cohorte élargie, et ça c'est dans le cadre du réseau national des généticiens qui travaillent sur les déficiences intellectuelles. On a pu rassembler donc une petite cohorte de patients avec des mutations qu'on appelle les mutations faux sens. Alors juste pour vous expliquer, ce sont des mutations qui vont changer en fait un acide aminé. Donc l'acide aminé, c'est un des composants de la protéine. On a pu démontrer que certaines de ces mutations avaient un effet délétère en fait sur la localisation de la protéine PTCHD1 au niveau de la membrane des cellules. Cette protéine, c'est un récepteur, donc elle va à la membrane des cellules, et ces mutations en fait empêchaient totalement cette protéine d'aller à la membrane. Donc on peut en conclure donc que la protéine qui porte cette mutation donc ne jouait plus son rôle physiologique. Et donc grâce à ça, donc on est en train maintenant de poursuivre tout ce travail sur comment comprendre quel est le rôle spécifique de PTCHD1 dans ces fameuses synapses glutamatergiques, notamment grâce à l'étude. Là on va travailler notamment sur des cellules IPS de patients, en complément de nos modèles de souris en fait, et pour décrire justement donc avec précision l'impact donc de mutation de ce gène donc au cours du développement du cerveau. Donc ça c'est un projet vous voyez qui est parti de 2015 et qu'on poursuit actuellement en 2021 et qu'on va poursuivre jusqu'en 2024. On a eu un gros financement de l'ANR spécifiquement sur ce sujet.
C'est vrai que c'est vraiment intéressant de travailler sur les IPS, parce qu'on a, par rapport aux patients, si on veut travailler sur des tissus issus du patient, on a accès souvent qu'au sang ou aux fibroblastes, hein, à partir des biopsies de peau. Donc là, on peut travailler à partir d'un prélèvement urinaire, par exemple, chez un patient, et à partir de ce prélèvement, le différencier en cellules neuronales. Donc c'est vraiment très intéressant, parce qu'on va pouvoir être vraiment proche du tissu qui est touché par la pathologie.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ces financements ? Parce que dans cet article, on voit, il y a tout un... Comment dire ? Tout un... Voilà, où chacun précise quels sont ses intérêts ou non-intérêts dans ce travail, déclaration d'intérêt. En quoi ça consiste ?
Alors, un chercheur, enfin, quand on fait une publication, donc à partir du moment où on a, je dirais, un conflit d'intérêts, on doit le mentionner. Voilà. Par exemple, vous êtes chercheur, vous avez des actions dans une société de biotechnologie ou qui va proposer une molécule pharmacologique ou quelque chose que vous allez vendre à la communauté scientifique en lien avec la publication, vous devez le déclarer. Donc ça, c'est important. Ça permet vraiment d'assurer une transparence de vos liens d'intérêt par rapport à l'approche. Exemple, un brevet, une déclaration de brevet en lien avec ce que vous publiez, vous devez le mentionner. Voilà. Donc ça, c'est important. Après, concernant les financements, de facto, les financeurs nous demandent, bien évidemment, quand on publie nos travaux qui ont été financés par telle fondation ou tel organisme, bien sûr, de les citer en remerciement. Donc ça fait partie du travail, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, on est obligé de le faire. Hein, c'est voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important.
C'est un peu le cadre juridique de la publication.
Tout à fait.
Alors là, je mets pause sur l'enregistrement. Alors pour terminer cette émission, Avis, la population étudiante, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux étudiants qui nous écoutent ?
Alors, s'il vous prend l'envie de devenir chercheur, hein, d'aller vers une carrière de chercheur, alors il faut juste que vous sachiez que il y a plusieurs ingrédients à avoir en tête. Vous devez être passionné par la recherche, vous devez être motivé également pour accepter en fait un long parcours scientifique. Hein, donc juste pour vous rappeler, donc il faut avoir un doctorat de sciences, donc Bac plus 8, et maintenant les chercheurs, avant de tenter les concours à l'INSERM ou à d'autres organismes, vous partez faire un post-doctorat, idéalement à l'étranger, et un post-doctorat c'est au minimum 2 ans, et maintenant de plus en plus régulièrement vous faites même un deuxième post-doctorat. Donc ça, il faut vraiment le considérer non pas comme, je dirais, quelque chose comme étant une contrainte, hein, ce sont des vraies opportunités. Moi, pour l'avoir vécu personnellement, j'ai vraiment adoré cette période. Ensuite, donc bien sûr, les concours chercheurs, c'est très compétitif. Donc pareil, donc il faut avoir en tête que avoir du succès au concours chercheur, ça se bâtit également sur toute votre carrière scientifique. Donc vous devez démontrer que vous avez vraiment, je dirais, un très bon dossier, avoir la motivation, la passion pour faire de la recherche. Et puis l'autre point aussi, c'est une fois que vous êtes chercheur, donc vous faites certes bien sûr de la recherche, vous défrichez un peu votre domaine scientifique, mais il y a aussi toute une part active sur la transmission vers les collaborateurs, les spécialistes, hein, on appelle ça les pairs, hein, mais aussi vis-à-vis du grand public. Donc toutes les actions de communication autour du grand public, aussi bien adultes qu'enfants, ça fait partie aussi du travail. Donc voilà, avoir aussi l'envie de communiquer, hein, sa recherche, mais également autour de la recherche.
Voilà, et si vous voulez devenir riche, il faudra trouver autre chose.
En tout cas, si vous êtes motivé, rien n'est impossible. Hein. Vous avez vu qu'on a des parcours quand même assez atypiques. Donc quand on a un rêve, il faut s'accrocher et aller au bout.
Exactement, voilà. Donc il faut être convaincu de la direction vers laquelle on va.
Ben, merci beaucoup à tous les deux pour cette conclusion pleine d'espoir et de bonnes ondes. Puisqu'on est à la radio, ça tombe bien. Merci encore... À vous, donc je rappelle Marie-Laure Winter et Frédéric Lomonier. Voilà, vous êtes ici dans cette méridienne dans le cadre de notre partenariat avec l'INSERM. On en profite aussi pour remercier Monsieur Escoffre.
Voilà, il me reste. Merci Mélissa.
Merci Mélissa.
De rien. Il me reste à vous souhaiter, chers auditeurs, une excellente journée à l'écoute de nos non moins excellents programmes. Je vous rappelle évidemment que cette émission est à retrouver en podcast sur notre site www.radiocampustour.com.